Alors, on parle du patrimoine mondial et ma première question, c'est vraiment une question d'orientation. C'est quoi votre implication dans le patrimoine mondial de l'UNESCO? C'était quoi personnellement que vous, où vous êtes impliqué dans le patrimoine?
Parce que j'ai pensé que c'était un des grands atouts de l'UNESCO, parce que nous devons surtout favoriser l'identité culturelle de chaque être humain et nous appartenons finalement à un cadre de créativité et ce cadre de créativité c'est du passé aussi et pour promouvoir la création présente il faut tout d'abord connaître ce que nous avons comme les grandes œuvres de la créativité ou de la nature. Donc, il y a tout cet aspect esthétique que je considère que l'UNESCO, dans sa 17e conférence générale, a fait très bien reconnaître. Nous avons, nous, l'humanité tout entière. Ici, il n'y a pas de frontières, ici, il n'y a pas de riches ou pauvres. Nous sommes tous les êtres humains qui avons cet patrimoine à nous tous. Et c'est pour ces raisons que moi, j'ai toujours eu un grand respect, pas seulement pour promouvoir ce qu'on avait déjà, parce que quand je suis arrivé, il y avait déjà eu la conférence Mundiacul à Mexico, l'année 1982. Et c'est là que Melina Mercuri avait proposé, comme vous savez, de à passer aussi à ce qu'elle appelait le landscape. Donc, quand il y a une conjonction de la beauté naturelle avec la beauté historique ou culturelle, de faire aussi ce qu'on peut dire de la reconnaissance de lieux culturels mixtes, culturels et naturels. Donc, moi, j'ai pensé qu'il était nécessaire aussi de pouvoir tenir compte de tous les résultats de la créativité qui ne sont pas de pierre, qui ne sont pas de grands monuments, qui ne sont pas d'œuvres de la nature elle-même, mais que c'est le résultat de cette faculté distinctive des êtres humains que c'est de créer. Et c'est pour cette raison qu'on a commencé à parler de le patrimoine immatériel, que je pense que c'est vraiment là où nous avons l'essence de l'être humain. Et je dois vous dire qu'il y a un mot-clé, comme vous savez. Et dans la convention de l'année 1972, à l'UNESCO, le directeur général que nous avions à ce moment, c'était René Maheu. C'était un homme d'une grande précision linguistique et aussi conceptuelle. Et c'est pour cela qu'on a dit que la valeur doit être exceptionnelle. Et ça, c'est une, à mon avis, une chose que nous devons, quand nous parlons du patrimoine, nous devons toujours ajouter, parce qu'il y a tellement d'œuvres magnifiques d'art, il y a des endroits qui sont formidables du point de vue de la beauté, mais il faut parler aussi de la culture, de l'histoire, de l'effort de créativité, parfois de courage, qui a représenté pouvoir aujourd'hui avoir ce témoin de la créativité du passé. Et c'est pour cela que je trouve que ce mot exceptionnel, c'est absolument essentiel.
Est-ce que vous avez travaillé avec la convention de 72 avant de devenir directeur général de l'UNESCO?
Oui.
Est-ce que vous étiez impliqué avant?
Oui, parce que j'ai été directeur général adjoint avec M. Mbeau, un grand directeur général d'ailleurs, de l'année 1978 à l'année 1981. Donc j'étais 3 ans. Et pendant cette période, oui, j'ai eu l'occasion aussi de m'occuper de pas mal de ces aspects. Même si vous savez que le directeur général a un rôle de promotion, un rôle aussi d'alerte quand il considère, comme a été mon cas par exemple, concernant encore, quand il considère qu'il faut déjà reconnaître et passer la responsabilité pleine de la conservation à la communauté internationale, donc à l'UNESCO, mais en même temps au pays dans lequel le lieu se trouve, que c'est la déclaration en péril. Ça, c'est une fonction qui appartient à notre directeur général s'il n'y a pas, de la part du comité, une initiative à cet égard. Et donc, dans les deux cas, j'ai eu la possibilité donc, de collaborer avec le directeur général, M. Mbeau, sur la protection de ce patrimoine fabuleux. Et c'est à ce moment déjà que j'ai commencé à penser et à écrire sur la grande fonction de l'UNESCO, que ce n'était pas de conserver les monuments de pierre, on peut toujours les restaurer, mais s'occuper de ces monuments fragiles, vulnérables, mais magnifiques, c'est chaque être humain. Et c'est à ce moment que je crois que cette dimension humaine du patrimoine s'est ajoutée à la dimension purement culturelle, architectonique, historique, etc., du patrimoine, de l'héritage finalement culturel que nous avions jusqu'à ce moment.
Je pense qu'à ce moment-là, au tout début, c'était surtout les premières années quand on a présenté l'île de Gorée, de Sénégal, oui, et aussi Auschwitz. Je pense que peut-être vous étiez impliqué dans ces deux-là.
Non, je n'étais pas directement, même si Auschwitz, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé après, étant aussi directeur général, parce que pour moi ce sont effectivement, vous voyez, vous venez maintenant de me donner deux exemples que je pense qui ont cette, en même temps que Gorée, par exemple, c'est vrai que c'est un endroit que par lui-même peut-être mériterait d'être, c'est la position plus occidentale de l'Afrique, c'était de là où, avec Ouida ou avec deux autres endroits aussi, mais c'était là où cette traite négrière avait lieu avec cette épouvantable vision. Et c'est pour ça que moi j'écris, par exemple, sur l'île de Gorée, pas mal de poèmes, parce que pour moi c'est impressionnant, c'est émouvant de penser que c'était là que c'est on décidait l'avenir des êtres humains, ou par les poids des hommes, ou les muscles des hommes, ou par la jeunesse des femmes. Et donc, je considère que votre question c'est très pertinent, parce que Auschwitz, c'est épouvantable comme endroit, mais il est un endroit de notre patrimoine culturel. Pourquoi ? Parce que nous devons réfléchir et nous devons avoir ça comme un symbole de ce que jamais plus doit arriver. Et c'est pour cette raison que quand j'ai été à la fois à l'île de Gorée et quand j'étais à Auschwitz, j'ai vu cette jamais, jamais, jamais tellement répété. Même si après, et c'est pour cela que c'est bon d'avoir ces endroits, même si après, il faut dire la vérité, on oublie très vite. Et la politique ou la façon de voir l'actualité, les problèmes de chaque jour, normalement est capable d'effacer cet impact tellement génuine que nous avons dans des occasions pareilles. Et moi, je crois que nous devrions précisément avoir dans les listes générales de notre patrimoine, dire voilà, tout ça, c'est la beauté, c'est la grandeur, c'est les splendeurs des cultures, l'Alhambra, les pyramides, vous pouvez dire Machu Picchu, quelle merveille, écoutez, Tikal, quelle merveille. Mais en même temps, il faudrait avoir cette liste plus restreinte, heureusement, mais cette liste dans laquelle on dit c'est ça à se souvenir chaque jour. Parce que c'est là où nous pouvons trouver un impact dans notre comportement quotidien. Et pour moi, la culture a une suprême définition, c'est notre comportement chaque jour. Et c'est pour cette raison que j'aimerais, de toute cette liste du patrimoine, avoir ce choix pour dire tout ça, c'est la beauté, c'est la grandeur, c'est la splendeur, tout ça, c'est ça qui doit chaque jour avoir une influence, un impact sur notre façon d'être, sur notre façon de nous comporter.
Est-ce que vous croyez, vous étiez là au début, est-ce que c'était la vision d'avoir une liste si longue? Est-ce qu'il y avait comme une certaine... Est-ce qu'on devrait se limiter? Est-ce que c'est bien balancé? Et là, je devrais dire que plus que 50% des sites sont les sites de l'Europe et que même cette réunion ici à Sevilla, il n'y a que 3 biens présentés par l'Afrique et 22 biens présentés par l'Europe, juste pour vous donner encore la proportion entre ces deux pays, ces deux continents-là. Alors, la question tourne autour de l'équilibre de la liste et la longueur de la liste. Est-ce que c'est ça qui était prévu ou est-ce qu'on devait le limiter à un moment donné?
Non, c'était très clair. Si c'est exceptionnel, doit être approuvé. Écoutez, vous croyez vraiment que pour le monde que nous, heureusement, nous sommes en train de peu à peu connaître et découvrir, donc, découvrir, ça veut dire que nous sommes en train d'être capables de voir ce qu'il y avait dedans. Et nous avons encore de merveilles. Par exemple, au Guatemala, vous savez que maintenant on vient de découvrir qu'il y a tout un merveilleux endroit qui est encore, parce qu'il est, pendant plusieurs siècles, il a été couvert de terre, de pierre, mais maintenant, on est en train, El Mirador, on est en train de découvrir une merveille fantastique. Ça nous démontre que nous avons une humanité qui depuis des siècles est en train de faire des choses merveilleuses et de développer cette capacité distinctive que c'est la seule qualité divine, que c'est de la créativité. Donc, quelle merveille! Et si c'est exceptionnel, le jour qu'on aura, je pense que ça ne sera pas de toute façon très vite, hein. Mais si on arrive à 2000, magnifique. Maintenant, nous sommes encore à 900 et il y a pas mal d'endroits et de lieux qui attendent. Mais vous me dites, qu'est-ce qu'il se passe en Afrique? Donc, c'est pour cela que je vous dis, il ne faut pas seulement se concentrer sur les pierres. Parce que l'Afrique, comme vous savez très bien, pendant des siècles, elle a construit sur le bois. Et le bois a disparu. Donc, c'est seulement les civilisations de la pierre qu'aujourd'hui nous pouvons redécouvrir, comme je vous disais tout à l'heure, avec le Guatemala ou avec d'autres endroits. Et c'est le même cas dans le cas de l'Europe, où nous avons ces créativités fantastiques, architectoniques, etc., monumentales. Mais où vous trouvez ça en Afrique? Vous trouvez dans le Zimbabwe quelques constructions de pierre, mais la plus grande partie des grandes œuvres d'art ont été détruites parce que c'était fait en bois. Bref, tout ça, il faut le tenir compte. Et il faut penser à la créativité de tous ces pays. Moi, j'ai appris tellement, tellement de la sagesse africaine. Pas seulement à l'UNESCO, au conseil exécutif. J'ai eu à Kizerbo, écoutez, calmez-vous, Mpateba, quand il a dit, en Afrique, quand un vieillard meurt, une bibliothèque brûle. Parce que c'est vrai, on s'est rendu compte de que c'était ça, c'était toute tradition orale. Mais quelle sagesse! Donc oui, tout ça se reflète. Mais c'est bon que dans votre chair, vous pourriez peut-être faire cette description de pourquoi il y a quelques espaces géographiques qui ont une plus grande concentration de lieux culturels. Et il y a des autres qui l'ont moins parce que, par la raison que je vous dis, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de construire avec des éléments qui étaient capables, comme la pyramide Gizeh, de résister pendant des siècles.
Le défi que je vois pour le Comité du patrimoine mondial, par contre, c'est la demande des pays africains d'avoir une équité dans le nombre d'inscriptions. Alors, ça pose un problème pour le Comité et pour les pays africains d'identifier le genre de site qui peut qualifier. Alors, il y a comme une demande d'équité, d'équité qui est vue en nombre de sites. Par contre, il faut formuler les nominations qui vont rencontrer les critères du comité pour l'inscription. Alors, il y a comme un défi pour le comité. Oui.
Ça, je pense que c'est une question de procédure, finalement, et qu'il faudra tenir compte de toutes ces spécificités de les différentes cultures, parce que vous trouverez ça pas seulement en Afrique, il y a d'autres endroits du monde dans lesquels il y a eu une grande créativité. La Chine, par exemple. Non, mais ils n'ont pas eu cette... comme par exemple dans la culture arabe. La culture arabe, et vous voyez par exemple en Espagne, quelle merveille, elles avaient le reflet de la splendeur toujours dans la pierre. Ils étaient permanemment obsédé pour laisser le résultat de sa conquête spirituelle dans des témoins qui pourraient être après, pendant des siècles, visualiser les témoins pour les générations futures de ce qu'ils avaient fait à un moment donné. Et ça n'était pas le cas dans d'autres cultures, donc tout ça, il faut en tenir compte. Même dans les cultures, que je trouve que c'est très intéressant d'étudier ça, dans les cultures originaires de l'Amérique latine. Vous voyez qu'il y a des cultures comme les Incas ou comme les Mayas. Ce sont par la propre nature, la propre cosmovision qu'ils avaient, ils ont des grandes constructions en pierre. Et par contre, vous avez d'autres. Vous avez les Guarani, vous avez les Aymara, vous avez d'autres cultures originaires qui n'ont pas ce reflet. Donc, tout cela, il faut en tenir compte parce qu'ils avaient aussi une énorme créativité, mais c'est pour cela que moi, j'insiste tellement qu'il faut toujours penser à l'être humain. Parce que ça, c'est les monuments que l'UNESCO doit sauvegarder et doit protéger.
Alors, juste pour une question finale, genre de vue globale, les réussites ou les points faibles de la Convention, qu'est-ce que, si vous êtes pour prendre un certain recul pour dire, bon, après presque 40 ans, est-ce que la Convention du patrimoine mondial a été une réussite? Est-ce que ça a été un échec? C'est quoi les points forts, les points faibles?
C'était une grande réussite et comme toute question, même peut-être parfois, il y a quelques œuvres de Michel-Ange qui sont presque parfaites, mais il y a toujours la possibilité d'améliorer. Donc, si vous me dites, est-ce que vous croyez que c'est parfait, je vous dirai non, il n'y a rien de parfait. Mais quelle merveille a été la Convention, et elle est la Convention aujourd'hui, parce qu'en plus, elle a généré cette vision de qu'il y a quelques aspects de l'humanité qui nous appartiennent à tous. Vous savez, c'est tellement important dire que nous appartiennent à tous parce qu'il y a quelques personnes qui souhaitent que seulement les appartiennent à eux, les choses. Et c'est merveilleux, à mon avis, voir que le patrimoine appartient à tous. Et c'est pour cela que j'ai aimé beaucoup Malte. La Malte, quand elle nous a donné sur les concepts du patrimoine commun de l'humanité pour la mer, vous comprenez? Et quand Arvin Pardo a dit « Non, 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 nous avons des choses qui nous appartiennent à nous tous. » C'est le fond de la mer. Et donc, je pense que la même chose pour l'art, la même chose pour la nature, la même chose pour les œuvres, c'est le patrimoine immatériel de l'humanité, pour les œuvres de créativité. C'est tellement merveilleux pouvoir dire « Ça m'appartient. » Même si c'est le Taj Mahal. Mais maintenant, quand je regarde le Taj Mahal, je le regarde avec des autres yeux. Il y a un nouveau regard sur tout cela. Parce que je pense, ça nous appartient à tous. Vous voyez? Donc, il faut dire que c'était une grande réussite. Que maintenant, on peut la perfectionner, effectivement. Qu'on peut peut-être avoir encore de cette vision transversale pour que les décisions soient plus faciles. Magnifique. Mais je vous dis que c'est une des grandes réussites de l'UNESCO. Et l'UNESCO a des grandes réussites. Parce que ce sont des choses qu'on ne voit pas. Ce sont les invisibles, les réussites de l'UNESCO.